Donc j'ai choisi de poursuivre les quelques méditations bibliques dans l'Épître aux Philippiens. Vous savez que c'est la troisième à partir de maintenant. Et j'ai choisi ce passage du chapitre 2 à partir du verset 19 parce qu'il nous présente deux serviteurs, Épaphrodite et puis Timothée, dans un ordre contraire. Donc c'est Timothée et Épaphrodite. Et pourquoi j'ai pensé ainsi? Parce que l'apôtre nous donne toutes sortes de renseignements sur ce que sont les ouvriers du Seigneur. Et nous pourrons, vous et moi, en retirer des appréciations personnelles pour voir un petit peu où nous en sommes et comment est-ce que nous traversons et nous vivons notre vie de chrétien. Donc, comme je vous le disais, Paul, il nous présente dans deux de ses collaborateurs dans son ministère, donc Timothée et Épaphrodite. Et Paul, il nous présente deux saints, dans le sens biblique du terme, de chrétiens et de nouveaux. On va dire, utiliser une expression, des saints ordinaires. Pourquoi? Parce que c'est des hommes, quand on considère les saintes écritures, qui n'étaient pas des apôtres ni des faiseurs de miracles spectaculaires. Ni pour l'un ni pour l'autre, il y a des miracles qui sont signalés. Néanmoins, ce sont des hommes de Dieu, et c'est à ce titre qu'ils sont intéressants pour nous. Comme vous le savez, Paul a probablement rencontré Timothée dans le livre des Actes au chapitre 14, quand il est passé par Lystre et Derbe, puisque le chapitre 16 nous dit que Timothée était donc dans la communauté de Lystre. Et au chapitre 14 du livre des Actes, Paul et Barnabas, après s'être enfuis, se sont retrouvés à Lystre et à Derbe, et puis dans les villages alentours. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont guéri un boiteux, et là, il y avait un prêtre d'une divinité païenne, et là, ils ont été pris tous les deux pour des envoyés de Dieu, à tel point que les hommes de cette époque ont dit concernant Barnabas, c'est Jupiter. Et concernant Paul, puisque lui portait la prédication, il parlait, et ils lui ont dit « c'est Mercure ». Et voilà que d'un seul coup, la foule se met à entourer Paul et Barnabas, et puis à les bénir et à les considérer comme des envoyés de Dieu, comme des dieux de la mythologie grecque qui seraient apparus sous forme humaine. Alors voilà que Paul leur explique « mais non, on n'est pas du tout cela, et vous avez tout cet enseignement de Paul ». Conteste ce point de vue à juste titre. Donc voyez comment l'ennemi de nos âmes essaye de modifier d'une manière invraisemblable les situations les plus spirituelles, et comment la foule est prête à suivre n'importe quelle idée à partir du moment où il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. Et c'est là aussi ce qui est intéressant, de voir comment dans la vie de Timothée et d'Épaphrodite, si nous en avons le temps, de voir comment eux, qui n'ont pas particulièrement vécu des miracles, se sont attachés à un comportement spirituel, à une attitude spirituelle, pour devenir des hommes de Dieu. Et au chapitre 14 des Actes, il nous est dit que des Juifs, au verset 19, « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. » Timothée est témoin visuel, ou en tous les cas un témoin auditif, où il était là, où on lui a rapporté ces événements. Mais en tous les cas, Timothée est un jeune homme qui entend ou qu'il voit que être disciple de Jésus-Christ, ça a de gros risques, puisque la foule est en train d'adorer Paul et Barnabas, puis d'un seul coup, des Juifs arrivent d'Antioche et d'Icône, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à les lapider, ce qui arrive pour Paul. C'est intéressant de voir que Timothée, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'être disciple de Jésus-Christ, ça peut parfois prendre des tournures dramatiques. Néanmoins, il semblerait qu'il se soit converti à ce moment-là, puisque le chapitre 16 nous dit que Timothée a reçu des anciens de l'église de Lystre et de Derbe le témoignage comme quoi il était un chrétien sérieux. Et c'est pour ça donc qu'en 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs ». Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. C'est intéressant que Paul donne cette exhortation. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et il s'adresse à des chrétiens dont on sait pertinemment qu'ils avaient bien des soucis. Il y avait des clans dans l'église de Corinthe, il y avait du péché, il y avait toutes sortes de situations invraisemblables. Et chose curieuse, Dieu permet que ce ne soit pas Paul qui se rende à Corinthe pour y mettre de l'ordre, mais que ce soit Timothée. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Timothée, ce n'est pas du tout la personnalité de Paul. Timothée, c'est un jeune homme, timide. Quelqu'un me disait tout à l'heure, quand j'étais jeune, j'étais timide. Ben, Timothée, c'était un timide. Et en plus, il avait une santé délicate. Et c'est vrai qu'à vue humaine, c'est peut-être pas le missionnaire qu'on aurait choisi, un gars timide avec une santé délicate pour l'envoyer sur les routes et affronter l'opposition. On prend toujours des costauds avec des personnalités bien déterminées. Mais là, pas du tout. Et je trouve que c'est extrêmement encourageant pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous êtes timide, je ne sais pas quelle considération vous avez de vous-même. Mais en tous les cas, nous voyons que Dieu utilise des personnes qui arrivent avec, entre guillemets, on va dire, certaines caractéristiques qui ne les prêtent pas à aller au-devant et à prendre des initiatives. Et pourtant, Paul va envoyer ce Timothée-là en plein cœur d'une église où c'est assez compliqué, l'église de Corinthe. Et pourquoi faire ? Pour qu'il soit un modèle, représenter Paul auprès des Corinthiens, pour que ces derniers puissent aligner leur vie sur l'exemple du grand apôtre, au travers de son intermédiaire, donc de son fils bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur, Timothée. Sous-entendu, Dieu peut faire avec chacun d'entre nous, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3. Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser avec nous. Alors, je trouve ça formidablement, donc, encourageant. J'ai noté là qu'effectivement, rien ne prédisposait naturellement Timothée à être un serviteur, mais en marchant avec le Seigneur et en travaillant avec l'apôtre Paul, il devint un serviteur en qui Paul pouvait avoir confiance et que Dieu pouvait bénir. Alors, qu'est-ce qui caractérisait notre cher Timothée ? D'abord, c'est qu'il avait un esprit, l'esprit du vrai serviteur. On voit dans le chapitre 2, les versets 19 à 21 de l'Épître aux Philippiens, on a un diagnostic de Paul sur les chrétiens de Rome. Vous savez que Paul, quand il a écrit l'Épître aux Philippiens, il était en prison à Rome. Et voilà ce que Paul dit concernant les chrétiens de Rome. Excusez. Il dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Car je n'ai personne ici, c'est-à-dire à Rome, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Et là, il parle de chrétiens. Hein? Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez, pour que l'apôtre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrivent un tel diagnostic sur des chrétiens. Paul, c'est pas quelqu'un qui, sous le Saint-Esprit, n'est pas la troisième personne de Dieu qui inspire n'importe quoi. Tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est sage, c'est profond, c'est authentique, c'est véritable, et c'est pour notre instruction. Et je me suis posé la question, mais comment se fait-ce que le Saint-Esprit et permis un tel diagnostic sur les chrétiens de Rome? Personne ne s'intéresse à vous, mais tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que le Seigneur va dire de moi quand je vais passer devant le tribunal de Christ. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que le Seigneur va dire de moi? Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi, dans le fond? Et c'est là où j'aimerais vous inviter à réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que le Seigneur pense de chacun d'entre nous? Qu'est-ce que le Seigneur pense de vous en tant que chrétien? Est-ce que nous avons à cœur l'œuvre du Seigneur et les soucis qu'il peut y avoir dans différentes situations? Ou est-ce que nous cherchons notre propre intérêt et non celui de Jésus-Christ? Timothée, lui, il cherchait effectivement l'intérêt de l'œuvre de Dieu et il avait cet esprit qui faisait qu'il s'intéressait aux gens et à leurs problèmes d'une manière naturelle. C'est vrai qu'on a des dispositions naturelles. Mais quand on est né de nouveau, le Seigneur sanctifie toute notre personne. Et pour autant qu'on ait des dispositions naturelles, on a besoin du Saint-Esprit pour qu'elle puisse s'exprimer pour la gloire de Dieu. Et puis quand on n'est pas naturellement équipé de cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire d'aller vers les autres, de se s'inquiéter des autres, le Saint-Esprit est capable de nous transformer et de nous donner un cœur, un esprit qui va s'intéresser véritablement aux personnes. Timothée, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se faire des amis ou à influencer les gens. Il avait plutôt à cœur leur bien-être physique et spirituel. C'est quelqu'un qui encourageait les personnes, voulait accompagner les personnes, n'avait pas les prétentions d'apprendre quelque chose d'une manière académique aux autres et avec une espèce de hauteur supérieure, mais au contraire, c'est quelqu'un qui se mettait au niveau des autres et qui avait le souci. Vous savez, quand on a le souci des autres, automatiquement, on se met à leur niveau et pour être compris, pour qu'ils se sentent aimés et donc appréciés. Alors, il avait ce cœur de serviteur. Et puis, Timothée, il était ouvert aux autres. Il avait donc cet esprit particulier de s'intéresser aux autres. Et dans l'Épître aux Philippiens, il y a deux versets avec, évidemment, c'est le même verset, mais dans un chapitre différent. Il y a le verset 2, le chapitre 2, verset 21 que nous venons de lire. « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Mais si on se réfère à Philippiens chapitre 1 verset 21, là on a « car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». C'est intéressant de voir que 1:21 ça vous donne « Christ est ma vie, la mort m'est un gain », puis la suite. « En ce qui me concerne, dit Paul, j'aimerais partir puis être dans le ciel avec le Seigneur. Mais si pour vous il est mieux que je reste, alors je suis prêt à rester puis à m'offrir en quelque sorte, à offrir ma vie pour vous ». Et on pourrait dire que nous vivons tous, soit selon Philippiens 1:21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, ou alors selon Philippiens 2:21, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Chacun doit répondre pour lui-même, en son âme et conscience, devant le Seigneur. Je n'ai pas, en tant que pasteur, à m'ingérer dans la vie intime et dans la vie secrète, dans la relation qui existe entre Dieu et son enfant ou ses enfants. Nous sommes, vous et moi, appelés à nous exhorter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, mais nous ne sommes pas invités à pénétrer dans l'intimité de la relation entre Dieu et nous. Et ce que je trouve remarquable dans les Saintes Écritures, c'est cet équilibre. Oui, nous sommes appelés à nous exhorter. Oui, nous sommes appelés à nous instruire. Oui, nous sommes appelés à nous aimer et à nous encourager. Mais nous ne sommes pas appelés à pénétrer dans le lieu secret qui est réservé à Dieu. Néanmoins, la parole du Seigneur, quand elle est annoncée, nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Et je crois que c'est le cas de ces deux versets. Est-ce que je cherche mes propres intérêts ou est-ce que je cherche les intérêts de Christ? En quelque sorte, c'est la même chose que dans le jardin d'Éden, avant la chute. Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf une chose, touchez pas à ça. Dans la vie chrétienne, je trouve ça remarquable, Dieu nous sauve, Dieu pardonne nos péchés, Dieu nous garde en lui, Dieu ne remet jamais en cause notre salut, mais il nous pose la même question que dans le jardin d'Éden. Tu peux faire beaucoup de choses, mais il y a des choses, il vaut mieux pas les faire. Il y a ma volonté, dit Dieu. Et nous, on est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On est sauvés, mais on a la même problématique qui se pose à nous. Et Dieu, pratiquement tous les jours, nous pose cette question. Qu'est-ce que tu fais ? L'autre soir, c'était jeudi soir, j'avais une réunion d'anciens et de responsables à l'église de Paris Nation. Franchement, je n'avais pas envie d'y aller. Pourquoi ? Parce que j'habite à 40 km de l'église. Si jamais je ne pars pas en début d'après-midi, vers 13h, après c'est très compliqué la circulation. Et là, je n'ai jamais pu partir à 13h. Je suis parti à 19h15 pour être à 20h, 40 km plus loin sur Paris. Et vous savez, j'étais à deux doigts de rester chez moi. Et puis, le Seigneur m'a dit, mais Jean, qu'est-ce que tu choisis ? Tu peux rester chez toi. Tu peux. Mais il y a mon œuvre. Tu fais. Vous voyez, j'ai bientôt 65 ans, 41 ans de vie chrétienne, mais j'en suis au même point que certains chrétiens. Je suis là, je me dis bon. Et j'ai dit, ok Seigneur, je vais vivre ça par la foi. Trois quarts d'heure, Seigneur, fais-moi arriver à l'heure, s'il te plaît. Je vous le donne en mille. Je suis arrivé à 19h59. Incroyable, jamais la voie ne s'est ouverte comme elle s'est ouverte, l'autoroute s'est ouverte comme elle s'est ouverte. C'est incroyable à cette heure-là. Et le Seigneur m'a dit, tu vois Jean, la vie chrétienne, quelle que soit ton expérience et tout ce qu'on veut, la vie chrétienne c'est toujours une question de foi, de confiance. Si tu me fais confiance, ok. Alors, je vous accorde que des fois je mets 2 heures. J'ai pas toujours la voie ouverte hein, quand je pars en retard. Un jour, il m'est même arrivé de faire 2h15 d'embouteillage pour un quart d'heure de réunion. Mais là, le Seigneur m'a appris quelque chose, l'obéissance. On n'est pas toujours exaucé comme on aimerait. Mais le jour où Dieu m'a bloqué sur l'autoroute alors que j'aurais mieux fait de rester chez moi et que j'ai eu un quart d'heure de réunion, il m'a appris une chose. On y va parce qu'on obéit. On n'y va pas comme ça, on y va parce qu'on obéit. Donc des fois il ouvre la voie, des fois pas, mais toujours il nous fait grandir. Et la vie chrétienne c'est toujours une vie de foi. Au quotidien, chaque chose que nous abordons c'est une question de foi, c'est-à-dire de voir Dieu agir dans la situation qui est la nôtre. Et est-ce que nous recherchons nos propres intérêts? Ou est-ce que vraiment Christ est ma vie et la mort m'est un gain? C'est-à-dire pas simplement dans le cadre du contexte du chapitre 1, la mort physique, mais la mort à nous-mêmes. Parce que si on creuse un petit peu le texte quand même, Christ est ma vie et la mort m'est un gain, c'est pas simplement Christ est ma vie pour l'éternité et la mort m'est un gain parce que je vais quitter ce corps limité pour aller dans la gloire. Mais Christ est aussi ma vie dans mon corps limité sur cette terre. Et la mort à moi-même est un gain pour l'expression de la vie de Christ en moi et pour le développement de ma foi, de ma vie chrétienne, de ma sanctification, de ma connaissance intime de Jésus-Christ dans mon corps mortel. Ça va, je suis clair ? C'est beau l'évangile. Hein. Je regarde ma montre. Ah ! On n'ira pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Et puis il avait l'expérience du serviteur. Paul n'a pas admis Timothée dans son équipe le jour même de sa conversion. Chapitre 14 du livre des Actes, Paul et Barnabas sont à Lystre et à Derbe. Chapitre 16, Paul va prendre avec lui Timothée. On ne sait pas exactement combien de temps s'est écoulé, mais il y a un certain nombre de mois. Probablement aux alentours de 2 ans à peu près. Mais il l'a laissé chez lui, Paul a laissé Timothée chez lui pour qu'il devienne un membre actif de la communauté à Derbe et à Lystre. Et c'est dans cette vie d'église que Timothée a grandi spirituellement et qu'il a appris à servir le Seigneur. Vous savez, l'implication dans la vie de l'Église, c'est là où ça vous fait des servantes et des serviteurs de Dieu. Quand on s'implique là où l'on est. Et puis, quand Paul est revenu dans cette région, quelques années plus tard, il a eu la joie d'apprendre que les frères rendaient de Timothée, donc de lui, un bon témoignage en Actes 16, verset 2. Donc on voit comment ce jeune homme, Timothée, qui était, comme les Saintes Écritures nous l'enseignent, timide, réservé, délicat sur le plan de la santé, ayant besoin d'avoir voir son don être ranimé, tellement il se disait « je ne suis pas compétent », comme disent les Québécois « je ne suis pas capable », c'est une expression québécoise, « je ne suis pas capable », avec l'accent. Hein. Mais des années plus tard, donc, il allait rappeler dans sa lettre à Timothée qu'il fallait laisser grandir les nouveaux convertis avant de leur confier des places en vue dans le ministère, en 1 Timothée chapitre 3, versets 6 et 7. Ça, c'est pour les diacres dans l'Église. Hein. Il est dit, il ne faut pas que ce soit de jeunes convertis, de peur que tentés par le diable, ils ne tombent dans l'orgueil. Mais il faut s'engager pour le Seigneur, entre autres dans la vie de la communauté. Et puis pour terminer avec Timothée, il a eu la récompense du serviteur. C'est assez extraordinaire parce qu'il n'était certainement pas parti pour ça. Mais Paul lui-même aurait voulu se rendre à Philippe, hein, comme il le dit dans le texte qui nous intéresse. Mais il a dû envoyer Timothée à sa place. Non seulement Timothée était l'enfant de Paul et son serviteur, mais encore il devint son remplaçant. Imaginez. Vous suivez un homme, par la grâce de Dieu, Dieu permet que vous suiviez un homme de la carrure de Paul, et puis vous devenez son remplaçant dans certaines situations. Alors que vous êtes timide, fragile, élevé par des femmes, pas très sûr de vous, ayant besoin d'être exhorté, ayant besoin d'être encouragé. Mais voilà comment Dieu forme ses servantes et ses serviteurs. Alors je vous dis tout ça, c'est pour que nous soyons ensemble encouragés. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne vous connais pas, je ne suis pas pasteur dans une église, dans votre église où vous vous rendez, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que vous et moi, nous avons besoin d'être encouragés, parce que des fois on se sent incapable, et pourtant Dieu nous a appelés pour que nous puissions le servir et pour faire et accomplir au travers de chacun d'entre nous de grandes et belles choses à sa gloire. Amen.